Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous sur les ondes ou par Internet pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. Voici donc Wagon Livre, 144e numéro que nous vous proposons ce soir avec un nouvel invité que je vais vous présenter d'ici quelques secondes. C'est son troisième passage dans notre rendez-vous littéraire. C'est notre paysan écrivain, éleveur de vaches charolaises dans le sud Morvan, à Poil, hein, dans la petite localité de Poil, dans la Nièvre. Un homme et un invité impliqué dans un syndicat agricole, également chroniqueur régulier au magazine associatif Vent du Morvan, Jean-Charles Cougny. Bonsoir Jean-Charles.
Bonsoir Yannick, bonsoir à tous les auditeurs de Radion.
Alors Jean-Charles, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Il faut planter le décor, on est installé au milieu de l'étable de l'exploitation agricole où tu travailles avec ton frère, puisque c'est un GAEC familial, paysan écrivain, donc qui nous reçoit au milieu de ces belles bêtes qui sont ton quotidien.
Oui, et qui sont en train de se gratter contre les tubes en métal. Donc s'il y a un petit bruit de fond, il ne faut pas que les auditeurs s'inquiètent, donc c'est parce que les bêtes se grattent un peu comme ça.
On a trouvé que c'était original d'enregistrer cette émission courant décembre, il faut le dire, au milieu de l'étable, au milieu des bêtes. On avait besoin d'un public physique, en tout cas, même si les auditrices et auditeurs sont au rendez-vous.
C'est un endroit que j'aime bien, et puis bon, c'est vrai que il vaut mieux faire ça courant décembre, parce qu'à la fin du mois, là, les premiers veaux vont naître, et on ne sait jamais. Hein, s'il avait fallu arrêter l'interview pour une césarienne, des fois, c'est pas très intéressant.
Quelques mots de présentation sur toi, Jean-Charles. Tu es né en 1957 à Nevers. Tu es installé dans le Morvan depuis 1975 et tu es paysan, écrivain, auteur à ce jour de 8 romans.
Oui, j'ai commencé à écrire il y a 10 ans exactement, après la grande sécheresse, la grande canicule de 2003. Là, j'avais fait une grosse déprime. Et bon, la généalogie m'a amené à l'écriture à ce moment-là. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui que je me suis vraiment lancé dans l'écriture.
Je rappelle, parce que c'est important, que tu as reçu le prix littéraire du Morvan en 2010, qui t'avait été remis d'ailleurs à Saulieu.
À Saulieu, par Madame le maire de Saulieu en particulier.
Et ce soir, on va parler de ton dernier roman. Alors, roman sorti en avril 2013... qui est toujours disponible en librairie, qui a pour titre « La croisade de l'Albigeois ». C'est l'histoire, je résume, hein, très simple, l'histoire de la montée en puissance d'un club de rugby dans un petit village morvandio au tout début des années 70.
C'est cela.
Hein, tout simple. Présentation toute simple. Alors, Jean-Charles Cougny, avec ce nouveau roman, tu ne quittes pas le Morvan. Tu restes vraiment, j'allais dire, le paysan écrivain avec le drapeau du Morvan vissé dans le nombril.
Oui, oui, c'est-à-dire...
Est-ce que tu vas un jour être capable de laisser un peu de côté ce Morvan que tu aimes tant, justement?
Ben c'est justement assez difficile, hein, parce que je m'aperçois encore, j'ai un seul titre qui a le mot Morvan, qui s'appelle « Retour de Trois Morvans », qui est sorti en 2009. Et à chaque fois que je fais des salons, c'est le premier livre que les gens regardent. Et bon, c'est vrai que je participe au magazine du Morvan. Et ce livre dont tu dis qu'il se passe dans le Morvan, théoriquement, il se passe à la limite du Morvan. Il y a des héros qui habitent la forêt du Morvan, mais il est théoriquement un petit peu à la limite du Morvan, comme serait, disons, Épinac, ou comme serait, je sais pas, le Creusot, quoi. Et de toute façon, bon, bah, pour les gens qui le lisent, c'est le Morvan. Hein. De toute façon, c'est vrai que pour beaucoup de gens, je suis un auteur du Morvan. J'y suis arrivé en 75. Je m'y plais bien. J'ai l'intention d'y finir ma vie, hein, je veux dire. Donc, je parle d'un pays que je connais. Donc, je ne vois pas trop le... Ça ne me gêne pas d'y rester, au contraire. Hein, c'est un grand plaisir pour moi.
C'est un peu ce sur quoi je voulais mettre l'accent. C'est qu'en fait, bien sûr, tu produis une œuvre de fiction. C'est un roman avec des personnages de fiction qui s'inscrivent dans un cadre, un contexte social, historique, économique, culturel que tu connais bien. Tu n'aimes pas, par exemple, lire justement des romans dont l'action se situe dans le monde paysan et qui sont totalement déconnectés des réalités concrètes de l'île. Ça t'agace profondément.
Ça m'agace surtout quand il y a des choses, des contresens ou des anachronismes criards, quoi. Moi, quand on me parle de quelqu'un qui balaye la stabulation libre en 1940, moi, ça me fait rigoler. C'est tout, hein. Quand on me dit qu'il y a des gens qui laissent leurs bêtes dehors en 1850, même l'été, les gens rentraient les bêtes à cause des loups, hein. Dans le Morvan, je connais cette région. Je ne dis pas que ça se passait pareil dans le Périgord ou ça se passe pareil dans la Somme ou en Bretagne. Je connais bien cette région. C'est pour ça que je parle d'une activité que je connais bien, c'est la culture. J'aurais beaucoup de mal à écrire le genre de livre que j'écris dans une autre région ou dans une autre activité. Parce que j'essaie que les gens rentrent dans mes romans, s'approprient les personnages. Donc il faut qu'il y ait de la vérité.
Avec ce nouveau roman, La croisade de l'Albigeois, bien sûr, tu nous laisses dans le Morvan, mais il y a un sport qui domine, c'est le rugby. Et là encore, comme tu n'écris que ce sur quoi tu... Enfin, que ce sur ce que tu connais bien, le rugby, tu l'as pratiqué adolescent et jeune adulte.
Oui, d'ailleurs, l'histoire se passe en 1971, donc c'est une période... Moi, j'ai découvert le rugby quand ma grand-mère a acheté la télé, on habitait avec ma grand-mère en 68, et je me rappelle, la première chose que j'ai vue, c'était le grand chelem, le premier grand chelem de l'équipe de France de rugby en 68. D'ailleurs, ce jour-là, avec mon frère, nous étions collés, nous devions aller le samedi après-midi en punition au collège, et ma mère a écrit au proviseur pour dire qu'elle ne pouvait pas nous emmener pour que nous puissions voir le match. Et je ne sais pas pourquoi, nous sommes tombés dans le rugby, mon frère et moi. Mon frère a été d'ailleurs un très grand joueur de rugby, il a joué 13 ans en deuxième division à Nevers. Et moi, j'ai toujours été un fan de rugby. Je n'ai pas pu continuer parce que quand je suis venu dans le Morvan avec mon métier d'agriculteur, je ne pouvais pas m'entraîner, je ne pouvais pas faire les longs déplacements. Donc j'ai joué dans un petit club local de foot. Mais j'ai toujours beaucoup aimé le rugby, même si je déplore un peu maintenant le côté professionnalisme, l'argent qui a l'air de gangréner un peu ce sport.
Alors justement, on a l'impression... Et c'est même pas une impression, c'est la quasi-certitude quand on lit La croisade de l'Albigeois, que tu célèbres avec nostalgie une sorte d'âge d'or, peut-être de ces villages du Morvan où il y avait une vraie vie à la fois associative, sportive, où tout un village est réuni autour de son équipe de rugby. Bien sûr, il y a des tiraillements, il y a des disputes, il y a des rumeurs. Mais il y a une sorte d'amour de ce pays morvandieux qui semble plus beau qu'il n'est à l'heure actuelle.
Oui, c'est-à-dire que...
Nostalgie, en tout cas.
Moi, j'ai pratiqué le football à l'US, dans les clubs de Millet, donc à côté de Poil, là. Hein, un club qui a été fondé en 77. Et c'est vrai qu'on jouait contre des petits clubs comme ça. C'était des derbies, c'était une... C'est vrai que c'était ce qu'on appelle... Le football des villages, hein, et qui disparaît un peu parce que il n'y a plus grand monde dans les campagnes en particulier, et je suis un peu nostalgique, c'est vrai, de cette époque. Mais on voit aussi au niveau du rugby, puisque c'est un des sujets du livre, on voit très bien qu'à l'heure actuelle, les petits clubs comme on avait dans le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Voulte, Bannière de Bigorre, Quiros, qui étaient des clubs qui arrivaient à rivaliser, à arriver en finale. Maintenant, c'est plus possible. Hein. Maintenant, c'est Toulon, c'est Toulouse, c'est Paris qui a deux équipes, c'est Clermont-Ferrand. Et c'est vrai que ce rugby des villages a disparu. C'est l'argent qui a fait que le rugby des villages a disparu. On voit même que Biarritz ne va même plus arriver à faire une équipe qui vont peut-être être obligés de se mettre avec Bayonne. Vous voyez, c'est assez affolant, quoi.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à bord de Wagon Livre ce soir avec Jean-Charles Couny, écrivain
paysan écrivain, il tient beaucoup à cette identité de paysan écrivain, parce d'abord. Que c'est quand même
c'est le paysan,
le paysan qui vit avec les charolaises. D'ailleurs, elles sont autour de nous, elles sont proches de nous, elles font un peu de bruit, elles existent.
Elles se grattent et puis bon, elles se demandent un peu ce qu'on fait, mais bon.
Elles te découvrent, elles se demandent peut-être ce que nous faisons au milieu de la stabulation. En tout cas, vous êtes à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. N'oubliez pas, vers 21h50, le coup de cœur de L'Autre Monde. L'Autre Monde, c'est la librairie d'Avallon, qui est la librairie partenaire de Wagon Livre. Evelyne Levallois nous rejoindra en fin d'émission, donc, pour partager avec vous son choix de la semaine. Petite escale, première petite escale en chanson. C'est toi qui as choisi les pauses musicales, Jean-Charles Cougny. On écoute Alain Souchon, Quand je serai KO.
When petite sœur will just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound all day long in my gown when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum. Plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When, petite sœur, we'll just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound all day long in my gown when I will be down. Plus d'atoll pour une déprime qu'à du bol. Plus les folles griffonnant je t'aime sur des bristoles. Quand je serai rien qu'un chanteur de salle de bain sans clap clap, sans guitare, sans les batteries qui tapent. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Quand je serai KO, descendu des plateaux de faune, poussé en bas par des plus gros, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore cette petite mort?
Il est paysan et écrivain, il signe son 8e roman qui a pour titre La croisade de l'Albigeois, les aventures d'un jeune Albigeois recruté par le club de rugby d'un village du Morvan au début des années 70. Qui est donc ce jeune rugbyman de 26 ans qui sent l'ail et le soleil, sur qui courent des bruits délirants et les rumeurs les plus folles? Début de réponse ce soir avec notre invité Jean-Charles Cougny, auteur donc de ce roman. Alors Jean-Charles, l'univers du rugby, pourquoi être allé chercher un gars du sud-ouest pour le faire venir sur cette terre d'accueil du Morvan? C'est pour rappeler que le Morvan est une terre généreuse, ouverte, accueillante, comme elle l'a été parfois dans l'histoire?
Non, enfin, j'ai fait venir ce gars du Sud-Ouest parce que c'était quand même, et c'est un peu pour ça que j'ai choisi plutôt le rugby que le foot, c'est parce que c'était quand même une chose très courante. Moi, je me rappelle à Nevers d'avoir joué avec des gars de Castelsarrasin, de Saint-Giron, à cette époque-là, où il y avait sans doute encore un petit peu de travail dans la Nièvre, on faisait venir un club qui était en deuxième division, faisait venir des joueurs, non pas comme des professionnels, mais ils les embauchaient. Bon, il y en a un qui était gardien du stade, l'autre qui tenait un bistrot, voilà. Donc, c'était tout à fait plausible de faire venir un joueur. Là, en plus, bon, pour quelqu'un qui avait une usine, ça correspond tout à fait. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ce Raphaël, donc, il vient d'Albi, qui est une très belle ville, et puisque Radion est dans Lyon, on peut quand même remarquer qu'à l'heure actuelle, puisqu'il joue numéro 13, il joue 3 quarts centre, il y a un joueur qui a fait l'inverse, c'est-à-dire Florian Fritz, qui joue en équipe de France et à Toulouse, et bien il a commencé à Sens. Et maintenant, c'est un grand joueur. Donc vous voyez, maintenant, c'est un peu le contraire. On voit les gens qui partent du nord de la France pour aller dans le sud. Je tenais à la remarquer parce que j'y repensais après. Voilà.
Ton roman, La croisade de l'Albigeois, donc l'action commence en juin 1971. L'action se situe à Verny, qui est un petit village de la Nièvre.
Moi, quand j'y ai pensé, je pensais que ça serait plutôt en Saône-et-Loire. Dans mon imaginaire, c'était plutôt, mais bon, peu importe. Hein. Disons que vu que le maire et patron travaillent au Creusot, bon, c'est vrai qu'il y a des gens de la Nièvre qui travaillent au Creusot, mais il me paraissait logique que ça soit plutôt côté Saône-et-Loire. Et puis bon, c'est vrai que maintenant, je suis pas mal connu en Saône-et-Loire, j'ai des bons retours au niveau des journaux, donc moi je pense que... Moi je suis pas... Je suis nivernais, mais je veux dire, on a une partie de 9 hectares en Saône-et-Loire, je vais étant chez le coiffeur, chez le dentiste. Vous voyez, nous, on est à cheval sur la Saône-et-Loire et on n'est pas, je veux dire, là, on est pour garder nos départements. Mais je veux dire, par exemple, quand je vais à Avallon, je pars de la Nièvre, je passe en Saône-et-Loire, je passe à Saulieu, en Côte d'Or, et j'arrive dans Lyon en une heure, hein, une bonne heure. Donc voilà, moi je pense que le Morvan, justement, c'est l'addition de ces 4 départements et moi, je suis du Morvan, quoi. Donc. Je ne suis pas forcément de la Nièvre.
Il ne faut pas chercher sur une carte le village de Verny.
Non. Non, il ne faut pas. Non, mais en général, c'est-à-dire que, vu les problèmes, vous savez, en particulier, bon, on parle de résistance, il y a eu des choses plus ou moins belles à la fin, donc je ne veux surtout pas m'attirer de problèmes avec des associations. Donc, en général, quand je prends... Bon, beaucoup d'auteurs font ça. Hein. Je prends quand même le nom du village principal, je l'invente. Bah, maintenant, on trouve le Creusot, on trouve Nuit-Saint-Georges, on trouve Couches. Mes joueurs vont même jouer à Auxerre à un moment, hein, d'ailleurs. Ils jouent à Autun, d'ailleurs.
Oui.
Et, club dans lequel j'ai joué, d'ailleurs, pas très longtemps, 3 mois.
Et c'est facile comme ça de forger des noms de villages pour un roman. Trouver les noms de personnages, c'est plus facile. On peut se promener dans les cimetières, comme Balzac le faisait, par exemple.
Oui, bah...
Mais forger des toponymes, c'est plus difficile.
Moi pour les patronymes, bon, j'utilise beaucoup ma banque généalogique, donc je prends dans mes ancêtres, comme Raphaël, puisque j'avais un ancêtre qui s'appelait Raphaël. Mais pour les noms de villes, c'est difficile, parce que, justement, le problème, c'est que les gens... on ne sait pas pourquoi on est attiré par un nom. Bon, on essaie de... grâce maintenant, si on peut dire, ou à cause, grâce à Google, on tape, on voit que ça n'existe pas. Si c'est au Google Maps, vous faites le mot et ça n'existe pas. C'est comme quand vous sortez un titre de roman. Le mieux, c'est quand même de le taper pour voir s'il existe. Bon. Et donc... mais alors, pourquoi on choisit un nom? C'est vrai que le Y, il y a beau dans la Nièvre, il y a beaucoup de Y comme mon nom de famille, puisque mon nom de famille est un toponyme. Il y a deux pays qui s'appellent Cougny dans la Nièvre. Donc, c'est très bourguignon, c'est très romain, d'après ce que j'ai compris, hein, la terminaison en Y. Donc, on essaie de trouver comme ça. Mais, je veux dire, maintenant, le problème, c'est que souvent, moi, une des dernières critiques... que j'ai reçu, mais gentil d'ailleurs. Hein. Une dame m'a dit « Ah, j'ai vu Verny, c'est la Nièvre en Verlan. » Alors autant pour Walpé, on pouvait dire « Oui, Walpé, c'est poil en Verlan, mais Verny, je n'avais pas du tout pensé que c'était Niver en Verlan. »
Alors Verny, le village au cœur de ton dernier roman, qui a pour titre, je le rappelle, « La croisade de l'Albigeois ». Donc Verny a une usine importante, c'est la concession Chardin Agri qui fabrique du matériel agricole. Elle est connue aussi donc pour son équipe de rugby qui, au début du roman, est la risée des environs parce que c'est une équipe de...
De bras cassés.
Il y a un problème, d'entraînement, crédibilité de l'entraîneur est remise en question. Enfin, il y a un manque de résultats. C'est la raison pour laquelle le directeur de l'usine de Verny recrute, puisqu'il est également le président du club, va recruter donc une figure sportive, athlétique, donc c'est ce jeune Raphaël.
Ce jeune Raphaël, voilà. Donc...
Et alors, ce qui m'a fait sourire aussi dans le roman, c'est que tout le village se retrouve au bar de l'Ovalie, qui est tenu donc, par la nénette et Dédé Maufroy. L'entraîneur de cette équipe, c'est Birout.
Ouais.
Alors là... Ça sent le Jean-Charles Couni à plein nez.
Ah ben, ma foi, vous savez, moi j'ai joué au rugby, on avait justement, j'ai joué à Nevers, hein, j'ai joué à Autun, mais j'ai joué à Nevers, on avait le siège social qui était le bistrot, je crois qu'il y avait la nanette aussi, hein, et puis il y avait le fils qui jouait au rugby, et puis bon, il y avait des surnoms, tout le monde avait des surnoms. Vous savez, le rugby, il y a toujours, enfin... Peut-être moins maintenant, mais à cette époque-là, il y avait vraiment une ambiance bon, qui était... Il y avait les troisièmes mi-temps, c'était quelque chose, hein, je crois. Mais bon, c'était pas trop mon truc, quand même.
Mais ce qui est incroyable aussi dans le roman, c'est que le directeur de l'usine est également le responsable du club de rugby. Et le village est traversé quand même de quelques rivalités sociales dans l'usine, déjà, parce qu'il y a quand même quelques syndicalistes dans l'usine Jardin Agri. Les deux copains du village, l'un est plutôt gaulliste, l'autre pro-Mitterrand. Il y a déjà des divisions.
C'est une réalité, c'est-à-dire qu'il faut bien voir l'époque. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans mon roman « Trois bains de paille » qui se passait en 76. Entre 68 et 81, voilà, il s'est passé des choses. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup... Les petits villages, comme ça, étaient très politisés. C'est-à-dire, bon, il y avait 68, il y avait des gens qui pensaient que la droite, c'était fini, que Mitterrand commençait à pointer son nez, voilà. Il y avait des gens qui pensaient que le grand soir allait arriver, hein, l'union de la gauche, tout ça, ça commençait à germer. Donc, c'est pour ça qu'il y avait... Bon, il y a des gens qui sont restés fidèles au général de Gaulle, qui n'étaient pas forcément des gens de droite, mais qui sont restés fidèles au général de Gaulle. Souvent, on le voit, comme dans mon roman, les gens de la terre, les paysans, qui étaient attachés à ces valeurs-là. Et puis d'autres, bon, qui étaient pour une certaine évolution, pour le socialisme, d'autres encore même plus à gauche, hein. Donc, voilà.
On parle du Morvan, de rugby, mais aussi d'un passé que l'on ne veut pas trop voir ressurgir, surtout lorsqu'il s'agit des sombres années de l'occupation en France. Ce sont quelques-uns des thèmes au cœur de l'intrigue du dernier roman de Jean-Charles Couni que nous recevons ce soir devant le micro de votre rendez-vous littéraire. Excellente soirée, petite et nouvelle escale en musique. C'est un choix de Jean-Charles Couni. Voici venir Philippe Lafontaine, Cœur de loup.
Pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui dire. Juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululée sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veuille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Elle est si frénésie sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter.
La victime est si belle et le crime est si gai.
De mentir ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter.
La victime est si belle et le crime est si gai.
Pas le temps de tout lui dire ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire,
de l'eau,
ni de quitter la scène.
Et
elle aura beau rougir, de toute façon il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon il faut qu'elle m'aime.
Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour le 144e numéro de Wagon Livre. La croisade radiophonique de Jean-Charles Couny, c'est ce soir sur votre radio locale. Avec notre invité, nous vous présentons son dernier roman, La croisade de l'Albigeois, une intrigue dont l'action nous mène dans un petit bourg du Morvan au tout début des années 70. Jean-Charles Couny, tu l'as dit, effectivement, l'action se situe quelques années après l'agitation, l'effervescence pré-révolutionnaire de mai 68. Néanmoins, il y a un personnage qui m'a intrigué et qui a son rôle dans le roman, mais je n'en dirai pas plus. C'est le personnage de ce qu'on appelle un gogneux. Qu'est-ce qu'un gogneux, Jean-Charles Couny ?
Oui, oh ben, un gogneux, on en a pas mal par là, on en a un qui est célèbre. C'est des gens qui soignaient, disons, par des médecines alternatives. Bon, alors, il y avait des gens qui étaient des ostéopathes avant l'heure, hein, mais il y a aussi des gens qui soignaient par des prières. Là, on a un gars par ici qui est très connu, hein, qui habite le village d'à côté, qui était facteur et qui est absolument fabuleux. Hein, je veux dire, moi, je veux dire, je n'y crois pas, mais les témoignages sont affolants. Alors, bon...
Sur les humains ou sur les bêtes ?
Ah ben surtout.
Ah, surtout.
C'est-à-dire, les bêtes, ils ne les touchent pas. Hein. Moi, une fois, j'étais... Ben, puisqu'on est dans une étable, je vais vous raconter une histoire. On était en train de changer des bêtes chez mon voisin, des génisses. Elles étaient dans la remorque. On était prêts à les emmener à 2 km d'ici. Et le voisin me dit, « Oh, mes génisses ont des dartres. » Alors, des dartres, c'est un genre de champignon. C'est même pas un champignon, c'est un virus, quoi. C'est une espèce, comme un zona. Et il me dit, « Ben... » Il appelle sa femme, il dit, hey, « Hé, Nanette, apporte-moi les ciseaux. Bah, » Il apporte les ciseaux, il coupe des poils de ses génisses, il les met dans une enveloppe, et il dit, « On va porter ça à Lambernio, parce qu'on l'appelle Lambernio. » Et voilà, et le gars a soigné les génisses comme ça, par télépathie.
C'est assez impressionnant, effectivement.
Et tout le monde en est content. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'il a toujours 2-3 voitures de garer tous les jours, mais il ne demande pas un centime. Il vit pas dans la misère, mais pas dans la richesse. Et je peux vous raconter des histoires comme ça. Il chasse les oiseaux, il parle aux oiseaux. Il y a un gars qui avait des oiseaux qui mangeaient toutes ses petites graines. Hop, il chasse les oiseaux, il retrouve les chiens de chasse, il guérit tout.
Alors, est-il le modèle du rebouteux qui est dans
non,
le roman ?
Non, je pense que, bon, au début, on dit que c'est un rebouteux, mais c'est surtout un passionné des herbes, quoi, de la médecine par les herbes. Vous savez, c'était aussi un peu l'époque de Maurice Mességuet, vous savez, vous n'avez peut-être pas connu ça, qui était à Florence, qui a lancé cette grande mode de la médecine par les plantes. Hein. Donc, lui, apparemment, c'est quelqu'un qui a étudié ça, qui est passionné par ça, Donc, comme il arrive de l'étranger, il découvre la flore morvandelle et il essaie de guérir avec ça. Mais bon, même à l'heure actuelle, on sait très bien que beaucoup de médicaments sont faits à partir de plantes. D'ailleurs, prenez l'aspirine. Moi, j'ai un copain qui, en plein cœur de Morvan, à Gien-sur-Cure, fait de la reine des prés. Et la reine des prés, ça sert à faire l'aspirine. C'est le principe actif de l'aspirine.
À côté de ces pratiques médicales traditionnelles, il y a quand même de la modernité dans ce moment. Bon, il y a cette industrie, cette concession Chardin Agri dans le village de Verny. Il y a cette Micheline qui assure la liaison ferroviaire Autun-Verny que le narrateur qualifie de rafale par dérision.
Oui, c'est par dérision. Mais bon, je ne sais pas si vous avez déjà pris le train entre Autun et La Roche-Migène. Je ne sais même pas s'il n'est pas arrêté, ce train-là qui passait par Saint-Martin-de-la-Mer, Saulieu. Voilà, c'est très touristique. Mais bon, on peut en rire, mais c'était comme ça autrefois, de toute façon. Il n'y avait qu'une voie sur cette ligne-là. Mais bon, à cette époque-là, les gens le prenaient encore.
Ce roman, La Croisade de l'Albigeois, met en scène un univers très masculin, très viril. Et tu as été, pas épaulé, mais disons que une femme, qu'un certain nombre d'auditrices et auditeurs connaissent peut-être, t'a aidé dans la conception de ce roman. Alors peut-être est-ce le moment d'en parler un peu, Jean-Charles.
Oui, j'ai une amie donc, qui s'appelle Jocelyne Bernot-Perdreau, qui avait déjà écrit un roman avec son mari. Et je la connais parce que je fais partie de l'association Lire en Pétunois qui organise la fête du livre tous les ans au Tain. Et c'est vrai que je lui ai présenté ce livre, ce manuscrit, au retour d'un éditeur, parce que les remarques de l'éditeur me posaient question. Et elle a lu ce livre, elle n'était pas particulièrement une grande lectrice de mes ouvrages. Et puis elle m'a dit, bon, ton livre, effectivement, il a un petit problème de construction, comme nous disait l'éditeur. Et il a, bon, et puis c'est vrai que je me rendais compte aussi, moi, vous savez, ce que je dis toujours, en France, il n'y a pas du tout de cours pour apprendre à faire un roman et pour en écrire, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. En France, on écrit, voilà, mais on n'apprend pas à écrire. Or, il y a des tas de règles, je veux dire, il y a des tas de choses auxquelles il faut réfléchir pour écrire. Et donc, moi, j'étais arrivé à un moment, j'avais vendu pas mal de livres, j'avais eu un prix littéraire, effectivement, mais je pensais que, en collaborant avec quelqu'un qui était professeur de français, je pouvais améliorer à la fois ma façon d'écrire, la façon de faire mes phrases, la façon de faire mes dialogues, qui étaient souvent un peu lourds, je le reconnais, où je répétais souvent « a dit un tel », alors que normalement, quand c'est bien écrit, on doit dire le minimum de fois. J'avais une façon de finir mes livres qui était peut-être un peu abrupte. Voilà, donc on a réfléchi, on a retravaillé ce livre, et elle m'a fait une très belle quatrième de couverture. Et puis bon, on a peut-être des projets de faire d'autres choses ensemble, parce que, vous savez, je sais pas, je suis un autodidacte, mais je pense qu'on peut progresser, et ça ne me gêne pas du tout d'écrire, enfin j'aimerais bien écrire un livre avec son nom associé, vraiment, parce que, je pense qu'on peut être complémentaires. On est issus de deux milieux un peu différents. Elle, professeure de français, moi, bon, j'ai pas été plus loin que le bac. Je crois qu'on peut faire quelque chose de bien ensemble. Je veux dire, on peut être complémentaires. Donc voilà.
Un des points forts de ton dernier roman, Jean-Charles, c'est qu'on est loin des romans paysans. On est loin de La Parisienne, par exemple, roman pour lequel tu étais venu devant notre micro. Tu es loin des préoccupations écologistes qui animaient Claire de Lune à Walpé, entre autres. On est dans un Morvan plutôt optimiste, où on se régale de cet univers sportif, de ses plaisanteries, de ses moqueries, de ses rumeurs. Et puis, il y a une intrigue aussi. Alors, c'est que cet Albigeois, cette croisade de l'Albigeois, ce jeune homme arrive en terre morvandelle. Mais finalement, il va gratter un peu le passé. Je ne vais pas trop en dire. Disons que je le dis sous ta surveillance. Il va gratter un petit peu les registres d'état civil. Il s'intéresse à l'histoire du Morvan, et ce n'est pas gratuit. Peut-être pas trop en dire.
Non, mais bon...
Il va remuer, disons, des événements que le village ne veut pas voir trop être dépoussiérés.
Voilà, ce qui est vrai, c'est que effectivement, j'ai écrit beaucoup de livres franchement paysans. Les deux derniers, ceux que je suis en train d'écrire le sont aussi. Mais c'est vrai que ma maman et ma sœur, une de mes sœurs, qui sont mes lectrices, hein, mes premières lectrices, m'ont dit « il y en a un peu marre de tes vaches ». Donc, c'est vrai que le but était un peu de sortir de cet univers uniquement agricole. Bon, maintenant, il y a le problème de parler un peu du passé, de choses que je n'ai pas connues, hein, comme la résistance, comme des choses comme ça. Donc, qui me faisait un peu peur, hein, parce que déjà beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été dites. Il ne faut pas non plus vexer les gens qui ont donné leur vie, ni donner des leçons, hein, parce qu'on ne sait pas du tout si on aurait été du côté de la résistance ou de la collaboration. Donc, j'y étais doucement. J'ai voulu changer. Maintenant, c'est très difficile, c'est vrai. Je crois qu'on peut le dire, ce livre-là a plutôt moins bien marché que les autres, hein. Justement parce que j'étais un peu sorti de mon côté paysan.
De ton terroir, voilà, en fait.
Oui, non, mais...
Alors que là, c'est plus une enquête,
quelque part.
Oui. Tu renoues un peu avec trois brins de paille.
Oui, mais c'est le problème un peu, je crois que c'est un peu le problème de... Des gens comme nous, quoi, que ce soit des écrivains ou des peintres. Dès qu'on sort un peu du domaine où les gens qui nous apprécient, on sort du domaine, nous attendent, je crois qu'on déçoit un peu les gens. Je dis toujours, enfin, je ne sais pas si je l'ai déjà dit à ce micro, c'est comme si Julio Iglesias voulait faire du rock, quoi. Donc les rockers n'apprécieraient pas, mais les mémés qui aiment bien Julio Iglesias n'apprécieraient pas non plus. Hein, je veux dire, voilà. Donc moi j'aimerais bien, et c'est vrai, après avoir écrit 8 romans en 10 ans, j'aimerais bien pouvoir sortir. Mais est-ce qu'on peut sortir? Vous voyez, là, rien que déjà quand les gens voient le titre Albigeois. Bon, ben dans le Morvan, les gens, il y a beaucoup de gens qui passent, parce que oui. Puis il y a des gens qui pensent aussi que c'est un rapport avec la croisade des Albigeois, donc c'est un truc historique. Bon, il y a des gens qui voient le rugbyman aussi sur la photo. Ah, oh, ben si c'est du rugby. Il y en a qui m'ont dit, ah, oh, ben si c'est du rugby, j'ai horreur de ça. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Hein.
Moi, je ne suis pas très fanatique.
Oui, mais.
Et j'ai lu ton roman avec plaisir. D'autant plus sur la couverture, le rugbyman en noir et blanc, c'est Jean-Charles Couny. Il faut le dire quand même pour information.
Quand j'avais 17 ans.
Quand tu avais 17 ans.
Mais ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est justement que j'ai des lectrices, je veux dire paysannes, donc. De plus de 60 ans, hein, qui me lisent et qui m'ont dit « on n'aime pas le rugby, mais on a bien aimé ». Et ça me fait beaucoup plaisir, parce que finalement, mon but, c'était pas d'intéresser ces gens-là au rugby, mais c'est qu'ils ont fait l'effort de me lire quand même.
On reparle du rugby après la pause musicale. En tout cas, est-il nostalgique du Morvan des années 70? Rêve-t-il encore de ces années où il pratiquait le rugby? Ses vaches lui donnent-elles plus de satisfaction que ses écrits? Nombreuses sont les questions qui planent au-dessus de notre invité. On le retrouve dans une poignée de minutes. Le moment est venu de marquer une nouvelle pause musicale. C'est Mistral gagnant, c'est un choix de Jean-Charles Couny. Et celui qui chante, c'est Renaud.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roux doudous qui nous coupait les lèvres et nous niquait les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Il a reçu le prix littéraire du Morvan en 2010 pour Clair de Lune à Walpé après une année de repos où il a réfléchi à son prochain roman. Jean-Charles Couny revient sur le devant de l'actualité littéraire bourguignonne avec son 8e roman. C'est La croisade de l'Albigeois et il en est question ce soir devant nos micros avec son auteur. Nous sommes ensemble, je le rappelle, jusqu'à 22h. Jean-Charles Couny, l'univers du rugby. Pour moi qui ne le connaissais pas, c'est tout un vocabulaire bien spécifique. Alors, il y a par exemple faire un ascenseur, on apprend ce qu'est une chandelle, une fourchette. Bon, les pénalités, ça paraît assez facile. Le cuir, la chistera, le pack, les floqueurs, la botte d'un joueur, c'est tout un univers que j'ai découvert grâce à toi sous ta plume.
Je suis très content de t'avoir appris quelque chose, mais bon.
Le cultive.
Oui, non, mais bon, c'est un univers particulier, bon, mais c'est un univers, bon, moi, c'est vraiment un sport qui m'a toujours emballé. Moi, quand j'étais gamin, le samedi matin où il y avait un match de tournoi des 5 nations à cette époque-là, l'après-midi, je ne pouvais pas travailler. J'étais tellement à penser au match, j'avais le cœur qui battait, c'est inimaginable.
Alors, il a aussi le cœur qui bat très fort, c'est ton héros, Jean-Émile Raffanel. Grand gaillard, donc, qui est recruté par le directeur du club de rugby de Verny. Grand gaillard d'1m80, 85 kilos. Tu l'as dit au début d'émission, il porte le numéro
comme
13.
Moi.
Et effectivement, il est aux antipodes de toi. Mais,
oh.
mais Jean-Charles, tout comme toi, il essaie de recréer le roman familial. Parce qu'il faut bien dire que c'est la généalogie qui t'a amené à l'écriture.
Oui, ben moi, c'est vrai, je l'ai dit plusieurs fois. Hein. C'est en commençant la généalogie que j'ai trouvé donc, l'histoire de mon arrière-grand-mère, donc, qui était domestique et qui était apparemment fille-mère, donc, puisque à la naissance de mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère est déclarée enfant naturel. Et je vois en marche qu'elle avait été reconnue à l'âge de 30 ans par un gars qui avait 11 ans de plus qu'elle. Et bon, après, j'ai déduit toute une histoire romanesque que j'ai écrite hein, pour mes amis généalogistes et puis bon, ou pour ma famille. Et puis bon, comme ça a bien marché, j'ai continué. C'est la généalogie qui m'a amené. Et d'ailleurs, bon, comme je le disais tout à l'heure, le mot Raffanel vient d'un de mes ancêtres du sud de la France, qui s'appelait Raffanel aussi.
Si tu n'as pas les mêmes qualités physiques que ton personnage Raffanel, en revanche, tout comme toi, il lit beaucoup, il se cultive, il est curieux.
Ah oui,
est-ce
oui.
que ce n'est pas aussi une façon de solder le passé?
Ben, c'est vrai que je...
Pour passer à autre chose, justement.
Je ne sais pas, j'aurais...
Sortir de l'arène du rugby et rentrer dans une autre arène.
C'est vrai que j'aurais bien aimé, moi, faire une carrière de rugbyman, mais avant, maintenant, je crois que c'est... Non, mais on a tous des rêves, hein, dans notre... Bon, mais c'est pas des regrets, j'ai fait autre chose. C'est vrai que... Et puis peut-être aussi, bon, j'avais un frère qui était une grande vedette. Hein, il avait sa photo dans le journal du centre tous les samedis et tous les lundis matins. Et d'ailleurs, il disait toujours, moi, quand je traverse la place Carnot-Annevert, il me faut une demi-heure le temps de serrer toutes les mains.
Et oui, mais est-ce que toi, depuis, tu n'as pas eu ta photo dans plusieurs quotidiens bourguignons?
Je pense que dis-moi. J'ai toujours dit que j'ai justement voulu me rattraper par l'écriture un peu cette infériorité que j'avais par rapport à mon frère, qui était champion à tout point de vue, et mon père aussi, qui était un grand orateur, quelqu'un qui a fait beaucoup de politique, qui était très connu aussi. D'ailleurs, on me demande toujours, est-ce que vous êtes le fils du Louis? Alors je dis toujours, pour moi, la célébrité, ça sera quand on demandera à mon père, est-ce que vous êtes le père de l'écrivain? Pour le moment, il n'y a encore personne qui lui a demandé.
Le roman La Croisade de l'Albigeois présente un Morvan, bien sûr un peu sombre, de par certaines histoires pas très glorieuses de la résistance, de l'épuration. Je n'en dis pas plus, c'est pas le cœur du roman, mais en tout cas, c'est au cœur des préoccupations du héros, Raphanel.
Oui, oui.
Il est aussi là pour rechercher et remonter quelque part à ses origines. Mais c'est aussi l'image d'un Morvan ouvert et accueillant, qui est un petit peu à l'image du syndicat agricole dont tu es membre. Mais tout se recoupe un petit peu quand même.
Oui, oui, mais bon...
Parce que ce Morvan rustique qui accueille un gars du sud-ouest, c'est une sorte de choc culturel quand même dans ce village de Verny.
Oui, oui, mais enfin bon, je ne veux pas être... je veux pas dire du mal du Morvan, mais je pense que...
Le Morvan est frileux, maintenant?
Non, je dis que le Morvandio n'est pas accueillant comme ça, et assez méfiant, je crois, au départ. Une fois qu'il vous connaît, bon, tout va très bien. Hein. Mais, d'ailleurs, tu te rappelles notre première rencontre? Tu m'avais dit que je ne t'avais pas... Non, mais je crois que le Morvandio n'est pas quelqu'un de naturellement accueillant comme ça. Le Morvandio est assez méfiant, parce qu'il avait l'habitude d'être méprisé un peu par les gens, que ce soit la plaine dijonnaise ou la plaine nivernaise. Donc, le Morvandio est passé un peu pour un arriéré, un sauvage. Donc, il n'est pas très accueillant. Bon, là, il y a une chose qui change tout, c'est que les gens sont complètement dans la frénésie sportive,
oui.
celle qu'on voit malheureusement à la télé et qui conduit quelquefois à des débordements. Et ça montre quand même que, même à un petit niveau comme ça, les gens sont prêts à dire une chose et à dire le contraire 3 mois après, hein, je veux dire, parce que je ne vais pas non plus raconter l'histoire, mais au début, notre joueur, il ne fait pas tout à fait ce qu'on aurait souhaité de lui, ce que son pédigré sportif promettait, et alors tout le monde dit, il faut le renvoyer chez lui, et au bout d'un moment, c'est un véritable dieu, hein, je veux dire, donc ça montre quand même le côté versatile de la population, des supporters en général, et puis des gens en général, de tout le monde, finalement.
Dernier intermède de notre rendez-vous. Tout de suite, voici un titre de 1969. On n'est pas très loin...
Année érotique.
Oui, année érotique. On n'est pas très loin, effectivement, des années qui voient où se passe l'action du roman de notre invité Jean-Charles Cougny. Donc, c'est La Croisade de l'Albigeois. On écoute. C'est un titre que tu as choisi. C'est le Métèque de Georges Moustaki. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité.
Avec ma gueule de Métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut. pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir.
C'était le métèque de Georges Moustaki, un choix de notre invité, Jean-Charles Couny. Et effectivement, Jean-Charles, Georges Moustaki, qui nous a quittés en mai 2013.
Oui.
Pourquoi, voilà. Pourquoi le métèque de Moustaki?
Oh ben parce que c'est toute notre jeunesse, Moustaki. C'est la liberté, puis le côté pâtre grec, là, vraiment. Non.
Alors, le temps passe très vite avec toi, Jean-Charles. J'ai envie de te poser une question un peu franche, qui va peut-être te mettre mal à l'aise.
Oula.
La question est simple. Que représente Jean-Charles Couny à l'heure actuelle, en tant qu'écrivain, paysan-écrivain dans le Morvan? Quelles sont les valeurs que tu incarnes, selon toi, à travers tes romans, mais aussi à travers l'homme de relation, l'homme de contact? Jean-Charles Couny s'investit en tant que chroniqueur dans Vent du Morvan, en tant que bénévole dans l'association Lire en Pays Autunois, dans le militantisme agricole. Quelles sont tes valeurs, Jean-Charles?
Moi, j'essaie surtout de rester moi-même, hein, parce que c'est vrai qu'on a quelquefois, je crois, même au début, hein, quand j'ai commencé à sortir mes premiers livres qui se vendaient très bien, on a souvent vite fait d'avoir un peu la grosse tête, de penser qu'on est quelqu'un de très important. Mais je pense que des gens comme Corneille, par exemple, m'ont vite remis un peu à ma place, hein, je crois. Bon,
oui, mais Corneille, il en a fait profession.
Oui, mais Corneille a fait profession. Mais je veux dire, voilà, mon but, enfin, je n'ai pas de plan de carrière. Moi, je suis très heureux que des gens prennent plaisir à lire mes livres. Moi, l'année dernière, des gens m'ont dit « Notre grand-mère de 100 ans, on va fêter son centenaire, elle a lu tous vos livres, ce qui lui ferait le plus plaisir, c'est que vous veniez pour son centenaire. » Moi, j'étais à la maison de retraite, et cette dame-là, elle regardait que moi. Elle regardait pas ses petits-enfants, j'étais presque gêné, voilà. Et elle m'a dit « Ah, celui-là, je l'ai pas lu. » Elle commençait à lire le livre. Bon, ben, voilà, ça me fait plaisir. Quand une dame me dit j'aime pas le rugby, mais j'ai beaucoup aimé votre livre, voilà, ça me fait plaisir. Quand on sent qu'on donne du bonheur aux gens, c'est formidable. Maintenant, la place que j'ai, l'image que je donne, moi, je sais pas ni calculer ni ma carrière, ni rien. Bien sûr, j'aimerais faire un best-seller, j'aimerais être édité par des grands éditeurs parisiens. Si on me donne le Goncourt, je le prendrais. Bon. Mais je veux dire, le but, c'est quand même que je garde plaisir à écrire, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, parce que c'est vrai que j'aimerais écrire des choses un peu différentes, sortir un peu du milieu agricole. Et je sais que mon public veut que je fasse ça, mes lecteurs. Voilà, mon but, c'est de continuer à avoir du plaisir à écrire, à avoir aussi du plaisir à faire la promotion, parce qu'il y a des fois des choses qui sont pas toujours agréables à faire, je veux dire, des déplacements, des choses comme ça. Et puis voilà. Mais
est-ce que tes vaches te donnent plus de satisfaction que tes écrits? Je reprends une réplique d'un personnage de Claire de Lune à Walpé.
Mes vaches, moi, quand elles veulent, que tout se passe bien, qu'elles font des bons veaux, au printemps, je vais qu'il y a de la belle herbe et qu'on voit des veaux qui gambadent, qui sont jolis, ou comme je vois mes broutards là, qui vont partir à la fin du mois, qui font 500 kilos, qui sont bien jolis, bien gras. Moi, ça me donne beaucoup de plaisir. J'y pensais là, parce que bon, théoriquement, je suis à quelques années de la retraite, Et je me demande comment je vais arriver à gérer ça, de ne plus avoir mes vaches. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas me manquer, comme la peur de la sécheresse, la peur de la pluie qui tombe tous les jours, des choses comme ça. Mais c'est vrai que mes vaches, toutes les vaches qui sont là, elles me connaissent. Je connais leur généalogie aussi. Hein. Je peux te dire à telle, elle s'appelle. Je peux te dire son nom, je peux te dire le nom de sa mère, de son père.
Et elles t'ont écouté avec oui. Intérêt.
Hein. Alors les petites ? Eh ben ? Eh ben les filles ? Non.
Elles n'ont pas envie de participer.
Elles n'ont pas envie de participer.
Je suis déçu. En tout cas, Jean-Charles, tu sais que c'était pour moi, en tant qu'animateur de Wagon Livre, un plaisir de t'avoir pour la troisième fois dans notre émission. Voilà. Je rappelle La Croisade de l'Albigeois, que l'on peut se procurer en librairie. On peut aller aussi sur ton site, hein, on tape Jean-Charles Cougny à partir d'un
là,
moteur de recherche,
on
te trouve.
Mais bon, on peut là, voilà. Mais moi, je remercie Radion, donc je sais que je suis un privilégié, donc, puisque c'est la troisième fois que je passe dans cette émission.
Ne le dis pas trop.
Faut pas trop que je le dise, donc... Alors voilà.
C'était la croisade radiophonique de Jean-Charles Cougny pour la promotion, qui n'en a d'ailleurs pas tant besoin que ça d'ailleurs, de la croisade de l'Albigeois. Mais on aime aussi avoir des figures originales, parce que Jean-Charles Cougny, c'est une figure originale, incontestablement. Et on attend des petites vidéos pour 2014, à nouveau postées sur YouTube. C'est pas ta priorité à l'heure actuelle.
Non, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à écrire en ce moment. Il y a des fois, il faut dire que j'ai fait ces vidéos à un moment où j'avais peut-être pas trop d'idées pour écrire. Là, j'ai plein de livres dans la tête et il faut que je les écrive, quoi. Voilà, donc
à suivre.
Je vais me concentrer un peu plus sur l'écriture, peut-être un peu moins sur tout le reste, quoi. Mais bon, mais je garde mes amis comme Yannick.
Merci Jean-Charles Cougny, et on retrouve tout de suite, elle est en studio, nous on est dans les tables, elle est au show, elle est en studio, c'est Evelyne Levallois de la librairie L'Autre Monde pour le coup de cœur de la semaine. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Yannick. Ce soir, Compagnie K de William Marsh sera mon chouchou. C'est publié aux éditions Gallmeister. Ce titre est écrit par un auteur américain qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale. La première édition américaine date de 1933. Ça n'avait jamais été publié en France. Heureusement qu'il y a le centenaire de 14-18 pour qu'on réédite des titres forts comme ceux-là. Hein, donc, William Marsh, vétéran des tranchées, s'engage à 17 ans. Il a reçu toutes les grandes distinctions militaires américaines. Et il va rentrer au pays après un an de guerre sans jamais vraiment s'en remettre. Hein. Il va mettre 10 ans à écrire ce livre. La force du livre, c'est que ça n'est pas une autobiographie. Il imagine une compagnie, d'où le titre, Compagnie K, où il y aurait 117 jeunes gars américains qui n'ont jamais voyagé en dehors de leur pays. C'est tous des paysans, hein. Ils sont jamais sortis de chez eux. Et ces 117 gars racontent un petit épisode, un truc qui les a marqués pendant la guerre. Alors, c'est toujours des petits récits en une page, parfois deux. Hein, c'est vraiment très court. Et au début, leurs remarques sont assez anodines. C'est « j'aimerais bien manger de la viande, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé hein, », des petites choses comme ça. Ou « ma maman me manque », ou « la nature elle est formidable en France ». Des petites choses comme ça, assez anodines, assez communes. Et puis, plus ça va aller, plus les récits, plus les témoignages vont se faire douloureux, parce qu'il y en a qui disparaissent, parce qu'on les oblige à faire des choses qu'ils n'ont pas très envie de faire. Par exemple, à un moment, on va leur demander d'abattre les prisonniers allemands. Parce qu'on a peur que si on met des prisonniers allemands derrière la ligne de front, eh ben, qu'on soit pris en sandwich, que ce soit un piège. Donc on décide de les abattre. Et donc ces gars racontent ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parfois avoir des points de vue différents sur un même événement. Donc un vrai travail d'écriture, 117 témoignages qui sont tous fictifs, mais qui racontent quand même quelque chose de très fort sur la guerre. C'est composé comme une mosaïque, mais ça progresse vers l'indicible et vers l'horreur de la guerre. Rien à redire hein, sur Compagnie K de William Marsh, très beau roman sur cette Première Guerre mondiale aux éditions Gallmeister.
Merci Evelyne pour ce coup de cœur. On te retrouve mercredi prochain pour un nouveau conseil de lecture. C'est la fin de Wagon Livre. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence sur le 90.5 Radion. Le 15 janvier prochain, à partir de 21h, nous serons en compagnie de Robert Auclair, qui est auteur d'un ouvrage intitulé « Avalon d'hier à aujourd'hui », c'est aux éditions Sutton. Il nous fera découvrir sa ville natale. On vous proposera donc une promenade radiophonique pour mettre en lumière une cité qui n'a pas encore tout révélé de sa richesse patrimoniale à travers ses quartiers et bien évidemment à travers son histoire. En tout cas, je puis vous l'assurer, passion et érudition seront au rendez-vous mercredi prochain, 15 janvier, 21h, avec Robert Auclair. Merci de votre fidélité, excellente fin de soirée sur Radion. Au revoir et à la semaine prochaine.